Chapitre 7. Une vraie saloperie, le froid. Il se faufilait dans la moindre faille et s'enfonçait dans la peau jusqu'à ce qu'il vous agrippe les nerfs et vous ronge les os. On ne trouvait aucun endroit, aucun abri pour lui échapper. Il vous traquait sans relâche, sous les toits, entre les murs, dans les caves des pavillons éboulés, dans les voitures ou les camions abandonnés, dans les grottes formées par les décombres et les failles. Franck et la fillette butaient sans cesse sur les cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants qui n'avaient pas eu le temps de se couvrir. Pris de panique, ils avaient couru au hasard en croyant que les secours viendraient les tirer de là, comme dans les films ou les séries télé. Le froid n'avait eu qu'à les cueillir, les paralyser et les congeler sur place, comme les mammouths de Sibérie. Les corps ne portaient parfois rien d'autre que des sous-vêtements ou des peignoirs enfilés à la hâte. Certains s'étaient échappés entièrement nus des ruines, et les chiens livrés à eux-mêmes ou les rats avaient grignoté leurs cadavres jusqu'à ce que la chair devienne trop dure pour leurs puissantes canines ou incisives. La vitesse avec laquelle l'air glacé avait supplanté la chaleur émolliente et anormale de ce mois d'octobre avait pétrifié la vie. Franck avait rajouté des couches de vêtements à ceux que Souria et lui avaient déjà enfilés, une superposition d'étoffes qui ne facilitait pas les mouvements. Dès qu'il s'arrêtait pour manger, boire ou satisfaire un besoin naturel, et là, danger, sitôt qu'on exposait un bout de peau à l'air, le froid s'en emparait et partait de cette minuscule base pour conquérir l'ensemble du corps. Franks s'était demandé s'il ne devait pas tout simplement faire sur lui et bénéficier ainsi de la chaleur de ses mixtions et de ses déjections. Puis il avait estimé que ce serait encore pire après avec les vêtements humides et y avait renoncé. Il empilait les cartons, les morceaux de bois, les journaux, craquait une allumette et restait tout près des flammes, au risque de se brûler. Il était donc en pleine lumière lorsque, pour purger sa vessie ou ses entrailles, il se débarguettait ou s'accroupissait après avoir baissé ses deux pantalons. Gêné, voire bloqué les premières fois, il avait fini par s'habituer au regard de Souria, constamment braqué sur lui. Il n'attendait pas qu'elle le lui réclame. Elle ne réclamait jamais rien, ni par la parole ni par le geste, pour dégager le bassin de la fillette de l'invraisemblable fouillis de ses vêtements et l'asseoir sur les talons près du feu. Souvent il ne se passait rien. Parfois elle expulsait quelques gouttes, parfois quelques crottes, et à l'aide des mouchoirs en papier dont il avait bourré ses poches, il l'essuyait avec soin avant de la rhabiller. La pluie de cendres était si dense qu'il ne voyait rien devant lui. Un panneau routier encore debout lui confirma qu'il marchait dans la bonne direction. National 20, Orléans, 84 km. Boissy-sous-Saint-Yon, 5 km. Étréchy, 14 km. Étampes, 21 km. Il avait seulement parcouru une trentaine de kilomètres. Décourageant au regard des efforts fournis. La route se dessinait avec netteté par endroits. Le vent violent dégageait les rubans d'asphalte de leurs tapis de cendres et révélait des files de véhicules habillés d'une pellicule grise. Des visages figés et blêmes se découpaient par les vitres. Des conducteurs et des passagers saisis par le froid eux aussi. Ils n'avaient pas voulu abandonner leur voiture, leurrés par l'impression qu'ils étaient en sécurité dans les habitacles. Ils avaient sans doute survécu jusqu'à ce que les moteurs, à court d'essence, s'arrêtent de tourner. Franks avait inspecté les carcasses métalliques dans l'espoir d'y trouver ce qui lui manquait, une arme principalement. Un sentiment d'horreur l'avait saisi à la gorge et au ventre lorsque le rayon de sa torche avait éclairé une famille entière dans un monospace. Les parents, les enfants, échelonnés de 8 ans à quelques mois, pétrifiés dans des positions révélatrices de leur affolement et de leur désespoir. Le nourrisson était resté dans les bras de sa mère, la bouche arrondie autour du sein dégagé. La mère, assise, stoïque, avait sans doute espéré que son lait réussirait au moins à détourner du petit dernier, du plus fragile, le spectre du malheur qui s'était abattu sur elle et les siens. Le vent colportait une répugnante odeur de soufre. Possible que tous ces malheureux aient été fauchés par les émanations d'hydrogène sulfuré. Franck s'en eut la confirmation lorsque, 2 kilomètres plus loin, il arriva au bord d'une faille dont il ne discernait pas le bord opposé. D'elle montaient des fumées jaunâtres qui répandaient une puanteur d'œuf pourri. Elle avait sans doute libéré, lorsqu'elle s'était ouverte, une quantité effroyable de soufre et asphyxié tout être vivant sur un rayon de 10 ou 15 kilomètres. Il lança une grosse pierre dans la bouche obscure, ne l'entendit pas tomber dans le silence pourtant sépulcral, signe que la fracture de l'écorce terrestre était profonde. Il n'avait pas d'autre choix que de la contourner. À gauche? À droite? Il risquait de s'éloigner de la Nationale 20 et de perdre tout sens de l'orientation. Mais il n'allait tout de même pas attendre que la faille se rebouche seule. Quelques milliers d'années avec de la chance. À droite. Il eut l'impression que quelqu'un avait soufflé la réponse par-dessus son épaule. Il se retourna. Personne derrière lui. Rien d'autre que les cendres drues qui jaillissaient de la nuit perpétuelle et se disséminaient sur la surface de la terre. Pourquoi pas à droite, de toute façon? Il alluma la torche dont il promena le rayon sur Surya. Elle ne tremblait pas, se contentant de le fixer de ses immenses yeux sombres. Il tira une barre de céréales de la poche latérale du sac à dos et déchira l'emballage de papier avant de la lui présenter. Elle la mangea avec une tranquillité qui le rassura en même temps qu'elle l'intrigua. Elle semblait supporter aussi bien, voire mieux que lui, les conditions qui ne cessaient de se dégrader depuis leur départ de Paris. Il n'avait pas croisé âme qui vive après être sorti du centre commercial. Il n'avait donc pas eu l'opportunité de chercher une famille d'adoption pour la fillette. Au fond, il n'était pas pressé de la confier à quelqu'un d'autre. Un intérêt purement égoïste. Même si elle ne parlait pas, elle lui tenait compagnie. Elle lui donnait des raisons de continuer d'avancer. De ne pas céder au découragement qui, comme le froid, guettait les moindres failles pour s'insinuer en lui. À quoi bon insister? Seulement 30 kilomètres franchis, et il en restait plus de 450 jusqu'au feu de Dieu. Des jours et des jours à marcher à travers un pays détruit et glacé. Des jours et des jours à lutter pour avancer avec une lenteur exaspérante, pour retarder une fin qui semblait inéluctable. Et puis le feu de Dieu aurait peut-être été englouti. Alice et les enfants tués. Peut-être aussi qu'il ne voulait plus de lui, qu'il ne l'attendait plus, qu'il l'avait remplacé en tant que mari et père, qu'il l'avait effacé de leur mémoire. Surya l'obligeait à se battre, au moins pour tenir la promesse arrachée par sa mère mourante. Il nettoya ses lunettes, celles de la fillette, la jucha sur ses épaules par-dessus le sac à dos, et se remit en marche, en longeant le bord de la faille. Il traversait ce qui lui sembla être une zone pavillonnaire. Ne subsistaient des maisons que des pans de murs et des monticules de décombres ensevelis sous une épaisse couche de cendres. Toujours aucune trace de vie, pas même de chien, de chat ou de rat. Un éclat de lumière attira son attention. Les lueurs tremblantes de bougies, par la fenêtre d'une construction pratiquement intacte au milieu du lotissement. Une ombre occultait par instants les flammes chétives. Aiguillonné par l'espoir de rencontrer des survivants, il accéléra le pas, s'approcha avec prudence de la fenêtre, et l'œil collé à la vitre, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Plusieurs personnes étaient assises autour d'une cheminée où crépitait un feu clair, immobile. Il ne les distinguait pas nettement. Il donna quelques coups sur la vitre sans obtenir de réaction, entreprit de chercher la porte d'entrée. Lorsqu'il se retourna, il se retrouva nez à nez avec un homme vêtu d'un passe-montagne, de bottes après-ski, d'une combinaison matelassée et d'une doudoune argentée. Les orifices noirs d'un canon de fusil de chasse se perchaient à quelques centimètres de sa tête. « Qu'est-ce que tu fouines dans le coin ?» La voix de l'homme était tranchante, menaçante. « Rien !» répondit Franks en s'efforçant d'ignorer le fusil braqué sur lui. « Je tente avec ma fille de rentrer chez moi. »«
À d'autres ?» gronda l'homme. « T'es rien qu'un petit salopard qui profite de la situation pour voler ce qui lui appartient pas !»
Franks s'abstint de répliquer que les notions de propriété étaient absurdes dans un tel contexte, conscient que son vis-à-vis ne l'entendrait pas, que sa maison, miraculeusement épargnée par le tremblement de terre, était la seule certitude à laquelle se cramponner. « Je peux descendre ma fille par terre ?» L'homme se recula d'un pas, devint une silhouette floue, presque abstraite dans la pluie de cendres.
« Si tu fais le moindre geste de travers, je te troue la peau. Tu m'entends, petit enculé, je te troue la peau !»
Franks souleva Surya sur ses épaules, la reposa sur le tapis gris et souple, puis défit l'écharpe qui lui couvrait le bas du visage.
« Combien de survivants dans la maison ?» demanda-t-il en se redressant. « Qu'est-ce que ça peut te foutre ?» T'as juste à te barrer d'ici et à plus y revenir. La prochaine fois, j'hésiterai pas à tirer.
Vous croyez pas qu'il serait préférable de s'entraider?
L'homme ricana.
Toi, t'es rien. T'as plus rien. Moi, j'ai encore ma maison, ma famille. Tu veux me les prendre, hein?
Sa voix grave avait dérapé dans les aigus. Je veux rien vous prendre du tout, dit Franks d'un ton calme. Je veux simplement m'assurer que vous allez bien avant de reprendre mon chemin.
Je te crois pas. T'es comme tous ces salopards qui cherchent à piquer le fric et les biens de ceux qui travaillent. S'il y avait pas ta fille avec toi, je te jure que je t'aurais déjà fait la peau.
Un cliquetis ponctua la fin de sa phrase. Il avait déverrouillé le cran de sûreté de son fusil.
« D'accord, d'accord !» dit Franks en écartant les bras. « On s'en va !»
Il saisit Surya par la taille et l'installa à califourchon sur ses épaules, au-dessus du sac. Il ne quitta pas des yeux les orifices sombres du canon du fusil. Une fraction de seconde avant le coup de feu, il sut que l'homme, qui respirait de plus en plus fort, allait tirer. Il se jeta sur le côté, tout en maintenant la fillette devant lui, à bout de bras. Ils tombèrent tous les deux en soulevant une gerbe de cendres. Il la relâcha dans le choc, la perdit de vue. L'odeur piquante du soufre s'infiltra dans ses narines et sa gorge. Le bruit de la détonation resta un long moment suspendu dans le silence ouaté.
Les plombs se fichèrent dans le sol et miaulèrent sur des bouts de ferraille.
« Tous des salopards !» murmura l'homme. « Tu vas voir ce qu'il en coûte de t'attaquer à moi !»
Franks se débarrassa du sac à dos, se rétablit sur ses jambes, chercha Souria du regard, ne la repéra pas dans l'uniformité grise. Frémissant de rage, il plongea la main dans la poche de manteau de cuir et s'empara de son couteau. Les gants de laine et son engourdissement rendaient ses gestes imprécis, maladroits. L'homme soliloquait quelques mètres plus loin. D'abord s'occuper de ce dingue, puis retrouver Souria. Il venait juste de déplier la lame, quand à nouveau un chuchotement l'avertit que son vis-à-vis s'apprêtait à faire feu. Il plongea vers l'avant et roula sur lui-même. Une lueur rageuse déchira les ténèbres. Les plombs sifflèrent au-dessus de sa tête. Il se releva avec une vivacité de bête sauvage et fondit sur l'homme, la lame en avant. Il évalua mal la distance et percuta l'autre de plein fouet. Il se rendit compte avec horreur que le fer, traversant les étoffes, s'était enfoncé jusqu'à la garde dans le ventre proéminent de son adversaire. Ils restèrent quelques secondes debout l'un contre l'autre, comme deux cerfs épuisés après une joute intense. Puis l'homme hoqueta, vacilla, s'affaissa avec une légèreté de feuille morte. Sans lâcher le manche de son couteau, Franks s'assura qu'il était mort. Hébété, il se retourna pour fouiller l'obscurité du regard. Il lui fallut une bonne minute pour remarquer une forme allongée dans la grisaille. Il franchit en quelques bonds la distance qui le séparait de Souria. Elle ne bougeait pas, étendue, déjà recouverte d'une fine pellicule de cendres. Il crut qu'elle avait été touchée par les plombs ou qu'elle s'était brisée les vertèbres, et son cœur se serra. Il revit avec une netteté dérangeante le visage tragique de sa mère prisonnière du train de banlieue renversé. Il la souleva, elle tourna la tête et leva sur lui ses grands yeux sombres dans lesquels il crut discerner des lueurs joyeuses. Elle n'avait rien, pas même une égratignure. Il en fut tellement soulagé qu'il faillit éclater de rire. Puis son regard heurta la lame ensanglantée du couteau. Il se rappela qu'il venait de tuer un homme, de priver une famille d'un mari, d'un père. Il devait leur expliquer les circonstances du drame. Il n'avait pas eu l'intention de donner la mort, seulement de défendre sa vie. Un malheureux accident. Il récupéra le sac à dos et, portant la fillette d'un bras, se dirigea vers l'entrée de la maison. Il frappa plusieurs coups à la porte. Seul le silence lui répondit. Il hésita un moment avant de tourner la poignée. Peut-être qu'il se fourrait dans la gueule du loup, que d'autres étaient armés à l'intérieur, qu'ils le prendraient eux aussi pour un pillard, qu'ils ouvriraient le feu sans sommation. Mais c'était la première fois qu'il tuait un homme, et il lui fallait se justifier, se laver immédiatement de ce qu'il ressentait comme une souillure. La lame s'était enfoncée dans la chair comme dans du beurre mou. Prendre la vie était d'une facilité dérisoire, une farce et une offense faite aux dieux, aux lois de la création. Bien que Franks ne fût pas théiste, au sens biblique du terme, les explications purement matérialistes ne l'avaient jamais satisfait. Il se tenait sur la frontière entre croyance et certitude, à l'endroit où le réel se voile, où la science s'efface devant le mystère, au carrefour de tous les possibles, et il privilégiait la logique ou l'irrationnel selon les préoccupations ou les intérêts du moment. Il restait néanmoins convaincu, au fond de lui, qu'il n'avait pas vraiment de prise sur sa vie, qu'une volonté supérieure ouvrait et fermait les issues, comme les dieux de l'Olympe dans les récits homériques. La porte de la maison s'entrebâilla en grinçant. Il s'avança avec prudence dans le vestibule baigné de ténèbres, le traversa, passa dans la grande pièce éclairée par une multitude de bougies posées à différentes hauteurs et les flammes de la cheminée. Les bûches craquaient et projetaient des gerbes d'étincelles qui fusaient et rougeoyaient sur le carrelage. Franks s'avança entre les fauteuils et le canapé. Une femme d'une quarantaine d'années le fixait avec insistance.
« J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. »
Elle ne bougeait pas. Elle ne bougerait plus jamais. Elle était morte. Il installa Souria près de la cheminée avant d'inspecter les lieux du regard. Ils étaient tous morts. La femme, deux adolescents et un garçon d'une vingtaine d'années, installés dans les fauteuils pour la reconstitution macabre d'une soirée familiale ordinaire. Franks associait maintenant le remugle lourd qui, tel un bourdon grave, sous-tendait les odeurs de soufre, de bois brûlé et de cire chaude à la chair en voie de décomposition. Devant ce théâtre morbide, il prit conscience de l'énormité de la catastrophe, et des larmes lui vinrent aux yeux. Comme les dinosaures ou les mammouths avant elle, comme tant d'espèces disparues, l'humanité risquait de s'effacer à jamais. Combien restait-il de survivants sur la surface du globe? Des millions? Ou seulement quelques poignées, qui ne suffirait pas à perpétuer l'espèce. Les chamans mayas avaient parlé d'une simple transition, du passage tumultueux d'une ère à l'autre. Le cataclysme s'avérait nettement plus destructeur que prévu. La question, lancinante, revint le taraudé. À quoi bon se battre? Il défit Souria de son écharpe, de son bonnet, de ses lunettes et de quelques-uns de ses vêtements, afin qu'elle puisse profiter de la chaleur de la cheminée. Il retira lui-même son sac à dos, son manteau de cuir et la veste de laine qu'il portait en dessous. Il avait l'atroce impression, lui, le survivant, de se donner en spectacle pour une poignée de spectateurs morts. Souria contemplait les flammes dansantes avec fascination. Franks décida de faire un rapide inventaire de la maison. La réserve de bois, située dans le garage, ne tiendrait que 3 ou 4 jours, au rythme où le feu les dévorait. Il trouva sur la banquette d'un pick-up une boîte d'une 50aine de cartouches. Il les récupéra, fouilla ensuite la buanderie, dénicha dans les placards des gâteaux secs, des biscuits apéritifs, des cacahuètes salées et des pistaches qu'il entassa dans les différentes poches du sac à dos. Le frigo était en revanche pratiquement vide. Il ajouta des bûches dans l'âtre avant de se rhabiller. Puis, après avoir recommandé à Souria de ne pas bouger, il sortit dans les ténèbres. Un linceul gris s'était tendu sur l'homme qu'il avait poignardé. Il épousseta les cendres pour dégager le fusil. L'homme ne l'avait pas lâché dans sa chute, et Franks dut écarter ses doigts déjà raides et crispés sur le pontet. L'arme, un modèle ancien, fonctionnait parfaitement. Il avait failli le constater à ses dépens quelques instants plus tôt. La cartouchière pressée autour du ventre du cadavre aurait pu détourner la lame et lui sauver la vie, mais le fer l'avait frappé juste au-dessus, sous le plexus. Le sang gelé formait une minuscule fontaine pétrifiée au-dessus de la plaie. Franks dégrafa la cartouchière et la fit glisser sous le corps. Quelques cartouches dégringolèrent qu'il ramassa et enfonça dans leur compartiment. Déjà engourdi par le froid, il se hâta de rentrer dans la maison et de se réchauffer devant la cheminée. Souria n'avait pas bougé, le regard rivé sur les flammes. Il ne prêta pas attention aux cadavres assis dans les fauteuils. Incroyable, la rapidité avec laquelle on s'accoutumait aux situations les plus lugubres, les plus monstrueuses. La scène avait perdu son caractère incongru et revêtu un aspect familier, intime presque. Il retira son manteau, compléta la cartouchière avec les munitions prélevées dans la boîte et la ceignit autour de son ventre. Moins corpulent que l'ancien propriétaire, il la serra jusqu'au dernier cran. Puis, comme elle demeurait encore un peu lâche, il pratiqua, à l'aide de la pointe de son couteau, un trou supplémentaire dans lequel il enfila la pâte métallique. Satisfait, il inséra 2 cartouches dans la culasse du fusil. L'arme, de facture rustique, était d'un maniement simple, même pour un novice comme lui. Un cran de sûreté juste devant le verrou, une double détente à l'intérieur du pontet. Il cala la crosse en bois contre son épaule et resta un petit moment dans la position du chasseur à l'affût. Si des meutes féroces rôdaient dans la nuit sans fin, animales et humaines, il était désormais équipé pour les affronter. « On va rester un peu ici », murmura-t-il, autant pour lui-même que pour la fillette. Il ne savait pas si elle le comprenait. Elle n'était pas sourde, il avait constaté à plusieurs reprises qu'elle réagissait au bruit, mais elle ne comprenait peut-être pas le français. Histoire de reprendre des forces. « D'accord, ma belle ?» Un sourire s'épanouit sur les lèvres de Souria. À cet instant, Franks entrevit plusieurs silhouettes dans la tempête de cendres. Elle s'approchait de la maison. Il ne chercha pas à savoir d'où lui venait cette vision. En principe, les yeux des êtres humains n'avaient pas la capacité de transpercer les murs. Il eut la certitude, une certitude suffocante, que la fillette et lui étaient en danger.